qui est là?
Hal.
Hal qui?
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Toc Toc.
RCFM, 17h-18h.
Toc Toc.
Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 18h. Mon invité ce soir est responsable de la conservation et de la restauration à la bibliothèque patrimoniale d'Ajaccio. Elle a découvert récemment un livre hyper précieux qui traite d'égyptologie. Elle a même un lien avec les tsars de Russie. Mon invité ce soir est Vanina Chirinsky-Chikmatov. Bonsoir.
Bonsoir Davia.
Bonsoir et bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté cette invitation.
Merci à vous, avec plaisir.
Alors une grosse intro hein, pour vous présenter, hein, pour mettre l'eau à la bouche à nos auditeurs. Vanina, donc Chirinsky-Chikmatov, nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Nous allons tenter de mieux vous connaître hein, et percer vos secrets et mystères s'il y en a. Alors où s'est déroulée votre enfance, Vanina?
Alors, mon enfance s'est déroulée sur le continent, en partie entre la Normandie et Paris. En grande majorité, je suis issue d'une famille tous dévoués à la télé et aux médias, tous journalistes, producteurs, monteurs, etc.
Des parents journalistes.
Oui, mon père grand reporter, quelqu'un qui est assez connu sur l'île, un vieux de la vieille, comme on dit, un vieux briscard, Philippe Alphonse, et donc il travaillait de conserve avec ma mère, qui elle était aussi pareil, productrice, monteuse, et deux personnes très engagées. Voilà, donc un milieu intellectuel très engagé.
Fille unique?
Ah non, surtout pas, heureusement d'ailleurs. J'ai trois frères et sœurs qui eux aussi ont travaillé dans les médias. Je suis la seule à avoir dévié de la voie familiale.
Vous, c'est la culture?
Moi, c'est la culture, ouais. J'ai trouvé qu'ils avaient déjà bien donné au niveau des enfants et de temps en temps, il m'est arrivé d'être chroniqueuse culturelle pour la télé, pour la radio, mais c'était vraiment sporadique. Disons que c'est les médias, pour moi, c'est comme retourner à la maison, on va dire. C'est comme retourner chez ma famille. Voilà.
Alors, si on le comprend bien, vous grandissez dans un milieu un petit peu aisé, un milieu d'érudits où la culture fait partie de la vie quotidienne. Lorsque vous étiez enfant, quels étaient vos rêves?
Quand j'étais enfant, mes rêves, disons que ce qui est très étrange, c'est que j'ai beau avoir été élevée dans un milieu effectivement, on va dire aisé, je dirais pas, parce que avec les artistes, rien n'est jamais aisé. On se retrouvait souvent avec, on va dire, les huissiers à la porte. Donc on a
un
une
peu
vie...
bourgeois bohème.
Même pas bourgeois bohème. Je crois que c'était même pas. Il y avait du militantisme à la fin. Chez moi, mon père supportait même pas l'idée d'être un bourgeois. C'était quelque chose qui le mettait en rage absolue. Donc on fallait surtout pas prononcer ce mot pour le qualifier.
Non, plutôt à gauche, j'imagine, des parents plutôt engagés à gauche.
Ouais, alors bizarrement, ce que je dis toujours, j'ai reçu une éducation de droite, parce que aristocratique, parce que j'ai ma famille du côté de ma mère, ce sont des princes, donc on devait savoir se tenir, un minimum. Et du côté, et pourtant intellectuellement, effectivement, les deux parents sont plutôt portés sur du social, on va dire, ouais, plutôt à gauche. Donc très intéressant, mais vraiment un drôle de mélange, un drôle de milkshake. Ouais.
Alors vos liens avec les tsars de Russie, expliquez-nous. C'est du côté de votre mère?
Oui, c'est du côté de ma mère, en fait. Ma mère et mes tantes sont les dernières princesses Chirinsky-Chikmatov, et donc elles descendent, et donc tous les enfants descendent de Genghis Khan, du premier fils de Genghis Khan, et mon arrière-grand-père donc était le dernier chambellan du tsar Nicolas II et son ministre des Beaux-Arts.
Pas mal. Est-ce que vous allez les léguer des pièces culturelles, je sais pas, des tableaux?
Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ma mère est issue d'une famille donc normalement extrêmement aisée. Ils ont tout perdu à la Révolution et ils ont vécu. Ma mère, elle, quand elle était petite, elle savait pas ce que c'était que des bonbons. Elle mangeait le salpêtre qu'elle grattait dans les caves parce que c'était le seul truc sucré qu'elle puisse avoir à disposition parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour acheter quoi que ce soit.
La Révolution de 17.
Après la Révolution de 17, ils sont émigrés et comme tous les émigrés, ils ont tout perdu. Et donc, ils vivaient à 15 dans une petite maison de la vallée de Chevreuse. Voilà, l'immigration absolue. Ouais.
Donc, votre lien avec la Corse, c'est votre père?
Oui.
Originaire d'Ajaccio?
Non, du tout. On est originaire de Calasim, du Niol. Avec ce fort caractère que ça peut marquer dans l'ADN. Et j'ai toujours été élevée depuis toute petite avec justement cette fierté, cette identité corse mélange. En fait, étrangement, je me suis jamais sentie vraiment française, sauf de culture. Mais au niveau du sang, on va dire, pas vraiment. D'abord, on me l'a toujours fait sentir, même depuis la petite enfance. À l'école, déjà à 4 ou 5 ans en maternelle, on me disait on me traitait de sale bougnoule, on me disait de retourner dans mon pays parce que j'étais corse, et ou alors de sale rouge parce que je portais pas un nom très français. Donc dès l'enfance, j'ai tout de suite senti que j'avais une différence par rapport aux français, bien français soi-disant. Mais pour moi, ça veut rien dire. Mais c'est là où j'ai appris la différence, oui.
Alors, vous grandissez, comme vous nous l'avez dit, entre Paris et la Normandie. Que représentait la Corse quand vous étiez enfant ? Des vacances d'été ou pas que forcément l'été ?
Non, il n'y a pas de vacances dans ma famille, il n'y a que du travail déjà. Une première chose, c'est que mes parents, les vacances, enfin mon père, ma mère d'ailleurs, n'aimait pas les vacances. Mon père a toujours été quelqu'un qui allait en Corse pour du travail, pour des reportages, pour des documentaires et des choses toujours engagées, qui nous ont d'ailleurs valu des aventures un peu rodéo, comme des menaces de mort, la voiture mitraillée... des accidents de voiture déguisés, en fait, c'était des façons de nous tuer. Enfin, on a toujours eu des liens très étranges avec l'actualité, on va dire, et les gouvernants, un drôle de rapport. Mais la Corse, c'est ça, c'est plutôt le militantisme, c'est aller en Corse pour ne pas perdre son identité, rencontrer des gens qui défendaient une identité culturelle assez forte, et mais qui était un idéal aussi à l'époque, qui n'avait rien à voir avec la spéculation qu'on peut trouver aujourd'hui. C'était du pur idéalisme.
Du pur idéalisme. Je vous propose d'écouter le premier extrait que vous avez choisi. David Bowie. Quand découvrez-vous David Bowie ?
Ben, toute petite.
Voilà. Vos parents écoutaient Bowie ?
Mes frères et sœurs. Ouais, c'était le truc à la maison.
Et on écoute ce magnifique titre, Space Oddity.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love be with you. Thank you.
et c'était David Bowie. À l'instant, donc, sur RCFM, un choix de notre invitée qui est Vanina Chirinsky-Chikmatov. Vous êtes avec nous jusqu'à 18h, donc on va essayer de mieux vous connaître. Donc, vous nous avez un petit peu raconté votre enfance, votre jeune vie d'adulte, vos études, elles se sont passées où et comment? Tout de suite, vous avez choisi cette voie artistique?
Oui, pratiquement tout de suite. Bah, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint. Bon, on est tous des artistes dans la famille, hein, ça c'est vraiment... Mais je suis la seule qui ait décidé d'en faire une profession. Je l'ai même imposé à mes parents, notamment à mon père qui voulait que je devienne journaliste comme lui. Et donc il m'a fait la tête pendant un an, il m'a ignoré pendant un an la première année de mes études d'art. Puis finalement, il s'est rendu compte que c'était vraiment ma voie, que j'étais faite pour ça. Mais en fait, entre Florence, Paris et Angers, j'ai fait mes études. Donc j'ai fait cette année d'études d'art, histoire de l'art, histoire du livre, restauration du livre, scénographie, architecture intérieure, donc graphiste, voilà, illustrateur graphiste.
Et vous avez toujours peint, dessiné lorsque vous étiez enfant
Toujours, toujours. J'ai même commencé à peindre sur les murs quand j'avais... je sais pas, j'avais à peine 10 ans. Les greniers de la maison familiale à la campagne ont gardé des traces. Et mes premiers dessins aussi déjà à l'école, à la maternelle, je me souviens. J'étais très calme là-dessus. En fait, je passais des heures à dessiner. Ça frappait beaucoup mes professeurs de la petite école. Ouais.
Quel est votre regard aujourd'hui sur la formation artistique des jeunes Corses? Alors, il existe une filière artistique à l'université de Corse, mais sinon ailleurs, voilà, pas de beaux-arts, pas de véritable école municipale pour former, voilà, des gens à un métier, à l'architecture, véritablement au dessin. Vous en pensez quoi, vous?
Bah, tout ce que je connais, moi, c'est aussi surtout la classe préparatoire à Sartène. Je crois que c'est Clémenceau, non? C'est ça, c'est lui. Voilà. C'est un peu.
Voilà, il y a même des initiatives privées que cette prépa là qui a ouvert ses portes à Ajaccio sur le graphisme, le design.
Oui, il faut puisque le public. Moi, j'ai toujours connu ça. Pourtant, je commence à être une vieille rascasse. Hein, j'ai 46 ans, donc 46 ans. J'ai vu que déjà à l'époque l'éducation nationale méprisait les arts. Je vois que la filière nationale et publique continue de mépriser les arts et c'est navrant. Donc si par le privé on peut offrir aux personnes et aux jeunes une formation digne de ce nom, faut pas oublier, moi, je crois que les gens oublient une chose. Tout ce qui nous entoure a été pensé par un artiste. Le design, ce sont des artistes à la base. Les meubles, les voitures, tout est pensé par des designers.
Voilà
l'ergonomie. Ce sont des artistes qui ont créé notre monde. Quand on va dans une ville et on s'émerveille devant les musées ou l'architecture, etc., ce sont des artistes à la base, ce ne sont pas juste des mathématiciens ou des fonctionnaires ou des choses comme ça. Il faut un peu se rendre compte que l'artiste a sa vraie place et la place d'un artiste est au centre de notre société.
Vous trouvez qu'il y a beaucoup d'artistes en Corse?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que le problème, je vais me faire vachement d'amis, là, je sens. Il y a beaucoup de gens qui s'improvisent artistes. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on fasse du loisir créatif, ça me dérange pas. Par contre, si des études d'art existent, c'est parce qu'il y a des techniques à apprendre. Il y a des autodidactes qui sont géniaux. Moi, j'en ai connu. D'abord, j'ai enseigné, donc je sais de quoi je parle à ce niveau-là. Mais ça n'empêche pas qu'une formation peut aider à appréhender des techniques bien précises. Et franchement, je conseille les deux. Donc, quand on a un don, c'est bien de le travailler, de l'exploiter et d'être capable de toucher à tous les médiums possibles.
Très bien, merci pour votre sincérité. Donc, vous entamez donc ces études d'art, hein, voilà, voyager, Florence, Angers, ça dure 7 ans. Derrière, vous trouvez rapidement un job. Qu'est-ce qui se passe? Vous consacrez à la peinture? Vous enseignez?
Non. Alors bizarrement, j'ai toujours été passionnée d'histoire aussi, et bizarrement, j'ai commencé à bosser, comme les jeunes, c'était un peu compliqué d'abord pour trouver des boulots d'illustrateur, etc. Mais j'ai commencé à faire des visuels. Je me souviens, mes premiers jobs, c'était des visuels pour des ventes d'entraîneurs de chevaux près d'un hippodrome. Ils me demandaient de décorer, je faisais ça, c'était vraiment pour manger au début. Après, je faisais aussi de la restauration en parallèle, puisque j'avais ces deux formations. Ça m'a beaucoup aidée aussi. Donc je travaillais aussi pour un expert en instruments de musique anciens, qui me confiait des instruments en fait polychromes que je devais restaurer, ou des statuaires, ou des choses comme ça. Donc j'ai commencé à travailler comme ça. Après, évidemment, tout ce qui était papier, j'avais une formation de restaurateur de papier. Et donc, en fait, tout ce que j'ai fait pendant ces 7 ans, on va dire les 10 premières années, j'ai jonglé tout le temps, j'ai jonglé, j'ai fini par et puis mon premier boulot, faut le savoir, c'est à 14 ans, j'ai commencé à être enlumineur. C'était mon premier travail.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le job dans Lumineur?
Alors, en Lumineur, c'est en fait tout ce qu'on faisait dans les livres anciens, c'est-à-dire on travaille sur de la peau de chèvre, on peint, on dessine. Ce n'est pas le travail de calligraphe qui est le travail d'écriture, mais c'est le travail vraiment de décoration des textes. Et donc, on travaille avec des pigments, de la feuille d'or, enfin, toutes les techniques anciennes que j'avais apprises.
C'est toujours un job de restauration?
Non, c'est un job de création pure. Oui, et de copiste aussi, parce qu'on avait des personnes, par exemple, je travaillais pour des maisons d'héraldique pour refaire les blasons des familles à l'antique, donc sur parchemin, etc. Ils l'encadraient. C'était, voilà, ça a été mon boulot vraiment. Et puis, je suis devenue aussi enseignant en art plastique et en enluminure. C'était une de mes spécialités. J'ai formé pendant 20 ans des gens à cette technique très précise. Je continue toujours, d'ailleurs.
Vous enseignez toujours?
Toujours, oui, à la médiathèque Saint-Pierrot, j'enseigne toujours l'enluminure. Et voilà, j'ai survécu comme ça. Et je me suis aussi occupée de mettre en valeur et en promotion et de gérer des châteaux dans l'Allier. Je faisais partie d'une association, j'étais secrétaire. Mais c'était pas une association juste pour dire on se balade, c'était une association active pour trouver des projets qui permettaient la réhabilitation et la restauration des châteaux et l'ouverture au public.
Quelle vie! Quel parcours! Quel CV! Ouais, non, quel CV, ça réduit un peu, ça fait un peu administratif.
C'est pas grave.
Et à quel moment la Corse revient véritablement dans votre vie? Quand décidez-vous de vous installer en Corse?
Alors, j'ai toujours voulu retourner dans un des pays de mes racines, pour la simple et bonne raison.
Donc c'était un peu la Russie, même la Russie, ça vous a effleuré l'esprit?
Oui, mais le problème, c'est que la Russie, on pouvait pas y retourner parce qu'on était une famille trop célèbre là-bas. Pour deux raisons. D'un côté, du côté de ma mère, elle a deux familles. C'est-à-dire paternelle et maternelle, qui sont tout aussi fameuses, mais c'est un peu prétentieux, mais elles sont tout aussi fameuses l'une que l'autre. D'un côté, on a les princes Chirinsky, qui étaient dans le gouvernement du tsar, et de l'autre côté, on a une famille ukrainienne, les Tereshenko, qui sont de grands entrepreneurs, des multimillionnaires, qui ont construit l'Ukraine, et mon arrière-grand-père qui a construit l'aviation ukrainienne, qui a créé l'aviation ukrainienne. Donc, du coup, on savait que si on retournait là-bas, avant l'heure, avant l'ouverture, avant la perestroïka et la glasnost, on aurait des problèmes parce qu'on était espionnés, on était suivis quand on allait là-bas, on était mis sur écoute, enfin c'était un peu chaud. Et j'ai toujours voulu retourner dans un des pays de mes racines parce que je sentais un certain racisme en France vis-à-vis de moi, vis-à-vis du fait que j'étais une enfant d'immigrée, une enfant corse. Et du coup, dès l'âge de 16 ans, je me suis fait une promesse, j'ai dit je viendrai habiter en Corse. Je me souviens, j'avais piqué une crise à l'aéroport d'Ajaccio parce qu'on repartait pour la énième fois. J'avais piqué une crise et j'avais dit je veux plus qu'on reparte. Et je trouverai n'importe quel moyen pour revenir, ce qui a grandement inquiété mes parents, parce qu'à l'époque, la Corse, au niveau professionnel, ça semblait pas sentir bon pour l'avenir. Et en fait, j'ai réussi, j'ai été extrêmement têtue, et j'y suis arrivée donc il y a 10 ans.
À la trentaine, vers 35
ans.
À la trentaine.
D'abord, j'ai essayé par tous les moyens de venir. Je me suis même proposée comme palefrenier dans des écuries, paysagiste, parce que je savais entretenir une propriété. Je savais m'occuper des chevaux, parce que on a eu des chevaux depuis mon enfance. J'étais dans ce milieu-là aussi. Donc, du coup, j'étais prête à faire n'importe quoi pour venir habiter en Corse.
Ouais. Alors, est-ce que vous avez fait n'importe quoi en arrivant ici?
Eh bien, bizarrement, je crois que le destin n'a pas voulu que je fasse n'importe quoi. Mais la première chose que j'ai faite, c'est de passer une petite annonce pour donner des cours de dessin. Et c'est comme ça que ça a commencé, tout simplement, par la restauration des statues et par les cours de dessin. Voilà, et par les cours d'enluminure, bizarrement. Et puis ça a très vite pris.
Vous avez même restauré des églises, participé à la restauration d'églises?
Oui, alors j'ai eu une chance incroyable. J'ai restauré le tabernacle de Sainte-Croix de Saint-Pierre de Vénaco et le maître-autel à Sainte-Croix de Corté, toute la dorure. Et mais le tabernacle de Saint-Pierre de Vénaco est une histoire magnifique puisque c'était un tabernacle qu'on m'a amené en pièces détachées en me disant on n'en veut plus. D'ailleurs, si jamais on le foutra à la poubelle. Enfin, si vous pensez pouvoir faire quelque chose, prenez-le. Et je l'ai emmené. Et il pensait que c'était un truc moche du 20e et moi j'étais en commençant à le nettoyer. Je me suis dit c'est quelque chose du 17e. Et je me souviens que je les avais appelés. Je leur avais dit, écoutez, c'est simple, je vous le rends pas tant que vous ne le classez pas. Parce que si vous me le recouvrez à nouveau de peinture, de plâtre et de je ne sais pas quoi, je préfère aller en prison pour vol plutôt que de vous le rendre. Et c'est ce qui s'est passé. Le tabernacle a été classé et maintenant, j'invite les auditeurs à aller le visiter parce que c'est une merveille qui fait à peu près 1,20 m de haut. Et je l'appelle la fusée du 17e. Voilà, 1689.
Et c'est vous qui avez estimé son âge?
Non, oui, d'abord j'ai fait une estimation, j'ai fait une expertise par rapport
en pensant que c'était il pensait que c'était quelque chose du 20e, donc très récent.
Voilà, tout à fait. Puis j'ai fait appel à un expert qui m'a dit moi je pense que c'est plutôt du début du 18e. Enfin bon, c'est un truc plus contemporain que ce que tu dis, machin. Et puis en fait, le tabernacle m'a donné la réponse quand j'ai attaqué le piétement, la signature en marqueterie était en dessous et donc c'était 1689.
Pas mal.
Ouais.
Bonne pioche. On se retrouve dans un instant après Purple Rain, c'est Prince, et c'est le choix de notre invité qui est Vanina Sherinsky. Chikmatov, on se retrouve dans un instant.
We'll be right back.
ce magnifique Purple Rain Prince à l'instant, 17h32. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur RCFM. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 18h, Toc Toc, consacré à notre invité ce soir, Vanina Chirinsky Chikhmatov. J'arrive à le dire d'un seul coup sans respirer, vous avez vu. Vous êtes responsable de la conservation et la restauration à la Bibliothèque Patrimoniale Fesch. Et on a beaucoup parlé de vous il y a quelques mois. Vous avez découvert cet ouvrage hyper précieux. Alors on a lu entre un Marc Lévy, un pauvre Marc Lévy et le Botin.
C'est vrai.
Donc un sacré traité d'égyptologie.
C'est ça. Alors je préfère dire plutôt qu'on a parlé du traité d'égyptologie que de moi, parce que c'est plutôt ça qui est important. C'est quand même une découverte mondiale, étant donné que c'est un livre dont il n'existait que 7 exemplaires connus au monde.
Il y a une dédicace de Gustave Eiffel?
Non, alors non. Gustave Eiffel, on est sur du 19e, là on est sur du 17e siècle, 1610. On a surtout une référence qui prouve qu'il a appartenu à Colbert.
Énorme.
C'est ça qui en fait que cet ouvrage est deux fois unique. On a donc effectivement un livre qui traite de tout ce qu'on connaissait à l'époque, donc au 17e sur l'Égypte antique. C'était souvent des collectionneurs qui avaient des pièces, des objets, des sarcophages, etc. Et puis il y avait tous les obélisques qu'on connaissait qui avaient été installés à Rome. Et donc c'est un peu un inventaire de tout ce qui existait sur l'Égypte antique en Italie à l'époque.
Vous avez un peu précédé l'expo Toutankhamon au Louvre en fait. Vous avez un peu donné
Voilà, j'ai donné le coup d'envoi. J'avais senti que
qu'il allait se passer quelque chose.
Non, c'est un coup de bol incroyable que d'avoir trouvé cet ouvrage.
Et qu'est-ce qu'on ressent quand on trouve ça? On se dit non, c'est une blague, c'est pas possible.
Exactement.
Sur
le moment. Non, dès que je l'ai trouvé, donc il était plié en deux.
Moi, ce qui m'a surtout étonné, c'est que vous ayez du Marc Lévy à la bibliothèque.
C'est-à-dire que
je trouvais ça un peu bizarre.
Moi, surtout, ce qui m'a choqué et ce qui aurait choqué n'importe quel conservateur ou autre expert, c'est qu'à l'époque, les réserves étaient anciennes, étaient mélangées avec les réserves de la médiathèque San Piero, c'est-à-dire que c'est au même niveau, et les livres, les romans, dont les Marc Lévy, étaient mélangés avec les ouvrages anciens, avec les incunables, donc tout était mélangé. Il y avait des poubelles, il y avait des meubles, il y avait tout. Je sais que certaines personnes n'oseraient pas dire ça en disant mon Dieu, on va avoir la honte, mais j'espère bien que je laisserai
que vous ayez la honte.
J'espère bien que vous ayez, qui que vous soyez et qui avez fait ça, j'espère que vous aurez la honte et que plus jamais ça ne recommencera. J'espère qu'après moi, plus jamais ça ne recommencera.
Est-ce que vous pensez qu'il y a encore d'autres ouvrages d'une valeur inestimable, qui dorment quelque part dans un coin de la bibliothèque patrimoniale d'Ajaccio?
Je pense que ça pourrait être possible. Après, j'ai fait un doublé, puisque un an après, j'ai trouvé les lettres autographes de la famille impériale, dont des comptes rendus de guerre signés de la main de l'empereur. Il y avait au jeu des 7 familles, j'ai gagné la totale.
Mais en fait, c'est les réserves sont immenses, en fait, des endroits un peu impénétrables.
Mais
on se dit,
oui, c'est impénétrable parce que c'est sous sécurité. Il y a pas de fenêtres,
il y a pas de lumière.
Il y a des lumières, mais il faut qu'il y ait une lumière au cerveau des gens qui s'en occupent à l'époque pour que tout d'un coup ça frappe. C'est ça le problème, c'est qu'il faut des experts, il faut des gens qui connaissent de quoi ils parlent. Et le problème, c'est que je passais par là par hasard, comme on dit, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée, et c'est vraiment le cas. Et quand j'ai vu l'état des réserves, surtout j'ai vu l'état des collections, en disant mais ce sont des livres exceptionnels. C'est-à-dire que vous aviez, par exemple, il y a une référence dans le milieu donc des livres anciens, c'est les chroniques de Nuremberg de 1493, c'est un genre de Saint Graal des bibliophiles, et je trouve ça au milieu des poubelles et des décorations de Noël. Moi, j'hallucine. Ça fait mal quand même, ça fait mal. Je me dis, on a ça à Ajaccio. Bon, donc après, oui, des livres inestimables, j'en trouve.
Je sais quoi, ça manque d'éducation artistique, je sais pas.
Mais
moi, j'ai souvent cette petite anecdote qui me revient en tête et qui me fait toujours beaucoup rire. Je me souviens de Simon Reynaud, j'étais encore maire d'Ajaccio. Et j'avais lu dans la presse qu'il avait été au Palais Fesch, en fait. Et il y avait c'était un employé de la ville ou du musée, en fait, qui s'était assis sur une chaise de Napoléon.
C'est ça.
Et qui avait, bien entendu, cassé cette chaise d'une valeur inestimable.
Mais oui.
Et bon, c'est très drôle, mais finalement, ça ne fait pas rire. Ce sont des choses graves, quand même. Voilà.
Ah, oui.
Que ce patrimoine-là, inestimable, ça fait rire parce que c'est une anecdote. Il n'y a pas mort d'homme, c'est pas non plus. Mais que ce patrimoine-là, sont un petit peu délaissés, pas forcément traités à sa juste valeur. On n'imaginerait pas ça au Louvre, qu'un employé du Louvre s'assoie
sur... Non, mais je pense qu'il y a un problème en Corse de la considération du patrimoine. Moi, personnellement, ça me fait pas rire du tout parce que je suis restauratrice et que quand...
Ça dit ça, vous a pas fait rire?
Pas du tout. J'ai trouvé que c'était gravissime, franchement. C'est comme quand vous êtes au pied d'un lit d'un malade, qu'il est sous perfusion et que quelqu'un se trompe de perfusion. C'est-à-dire que le mal qui a été fait est irrécupérable. Ce que la personne a fait, là, ce sera marqué occupé sur ce siège toute la vie du siège. Les objets anciens, les objets historiques ont leur propre vie, leur propre destinée. Ils ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à nos enfants. Ils appartiennent à la mémoire humaine. Le rapport que nous avons à eux doit être un rapport de respect et un rapport impersonnel. Donc c'est tout à fait différent. Le problème, c'est qu'il y a un manque de conscience absolue patrimoniale et historique sur cette île. Je m'excuse de le dire assez violemment, mais quand je vois à quel point les maisons anciennes sont ignorées, comment on peut raser joyeusement des bâtisses anciennes parce que sous prétexte que ça coûte plus cher de les restaurer que de construire du nouveau, moi j'hallucine, ça coûte pas plus cher, au contraire, c'est pour avoir fait restaurer des maisons anciennes, avoir participé au sauvetage de maisons anciennes, ça, au contraire, ça participe à l'identité insulaire.
Et d'où pourrait venir ce salut?
Ben écoutez, d'une éducation qui se fait très tôt, des parents par exemple qui emmènent leurs enfants dans les musées et surtout du fait que normalement la culture c'est quelque chose de qui doit être pédagogique, ludique. Et si on arrêtait de rendre aussi tout ce qui est culture et l'institutionnaliser, le rendre aussi barbant que de manger une soupe froide au vermicelle, je pense que on aurait plus de considération pour le patrimoine et l'histoire. C'est fun l'histoire, c'est rigolo, c'est comme vous disiez, ce sont des anecdotes, c'est du rêve aussi, c'est beaucoup de rêve, se dire qu'il y a l'empereur, c'est quand même assis sur ce siège, c'est fabuleux. On n'a pas besoin d'y mettre ses fesses pour se sentir comme l'empereur, d'ailleurs, parce que pour le coup, on est le roi des cons. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut dire. Les livres, c'était pareil. Quand je suis rentrée là-dedans, je me suis dit, la personne qui a laissé ça dans cet état, excusez-moi, mais c'est vraiment le roi des cons aussi, parce que c'est pas possible. Il est en train de détruire la mémoire ajaxienne, la mémoire insulaire et la mémoire internationale. On a des ouvrages qui sont du niveau international. Et tout le monde s'en fout. C'est ça bon, la nouvelle municipalité a été plus émue parce que, évidemment, en plus, je leur ai beaucoup cassé les pieds. J'ai été extrêmement insistante, voire au bord du harcèlement, parce que je voulais absolument qu'ils prennent conscience de ça. Et heureusement, il y a eu des personnes qui ont pris conscience de ça. Notamment, je salue Madame Guérini, qui a été un soutien incroyable, parce que bah, Simone, elle est amoureuse du patrimoine. On le sait, on connaît, voilà. Et c'est elle qui a décidé que, bah voilà, il fallait tenter quelque chose. Après, le reste a suivi. Mais je sais que là, en ce moment, on est en période préélectorale. C'est pas une question politique. D'ailleurs, j'ai toujours dit à Simone, je vous préviens, je suis pas de politique. Moi, je fais de la culture et du patrimoine. La politique, j'en ai rien à cirer. Voilà, parce que la politique, ça détruit plus que ça ne construit. Parce que c'est selon les intérêts et selon les intérêts où on garde ou on détruit. Voilà. Donc, pour moi, c'est la seule politique que j'ai, c'est la mémoire, c'est le futur. Le futur, c'est ne pas perdre, ne pas devenir amnésique. Raser les maisons, perdre les œuvres d'art, c'est raser notre mémoire humaine, notre histoire humaine. Je n'arrive pas à comprendre ça, ce mépris qu'on a de notre mémoire culturelle insulaire.
Est-ce qu'un jour on pourrait vous retrouver en politique, Vanina?
À mon avis, sans, c'est improbable.
Impossible.
C'est impossible.
Bon, on a l'enregistrement, on sortira ça dans 20 ans. On se retrouve dans un instant après un autre de vos choix musicaux, c'est Coldplay.
Alive again. Are you everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape.
C'était Coldplay, alors je vous laisse dire le titre parce que vous le dites beaucoup mieux que moi.
Adventure of a Lifetime.
Ouais, magnifique. Après avoir parlé de votre vie, de vos œuvres, hein, de vos coups de gueule, de vos coups de cœur, on va parler à présent de féminisme.
Oula, vous êtes... allons-y,
vous
au
êtes
contraire.
Vous êtes une féministe.
Alors, d'une certaine façon, certains le pensent. Moi, je prends les commentaires extérieurs, parce que se définir soi-même, je considère que les hommes et les femmes sont souvent complémentaires. Je trouve qu'au niveau intellectuel, je vois pas où il y a de différence, personnellement. Ça, alors là, ça m'a jamais frappé.
Comment est-ce qu'on d'abord on pourrait définir le féminisme pour nos auditeurs et auditrices, hein, qui souvent, enfin. Moi, je connais plein de gens qui connaissent pas trop la définition du féminisme. Bah, c'est juste l'égalité, être pour l'égalité de droits entre les femmes et les hommes.
Après, je pense que le féminisme, chacun se l'approprie et s'en fait une idée bien précise. Aujourd'hui, on en fait une idée très négative, très agressive, et au contraire qui met les hommes de côté. Et pour moi, le féminisme, c'est tout le contraire. C'est au contraire une idée de se réconcilier, de trouver les points de complémentarité. Mais surtout, la première chose, c'est le respect de la différence, de l'autre, le laisser exister, reconnaître ses qualités, ne pas profiter de ses faiblesses, parce que c'est le problème aussi des femmes, c'est que les femmes ont souvent, on a longtemps profité de leurs faiblesses. Il y avait une chose qui me frappait, j'ai regardé le film magnifique La French sur le juge Michel et sur toute cette chose. Et ce qui était extraordinaire, c'est que il y avait ce grand voyou dont je ne citerai pas le nom parce que je n'aime pas faire de la pub aux gens affreux, on va dire. Mais cet homme, il a commencé comme proxénète. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est marrant.
Il y avait beaucoup de Corses dans cette époque.
Il y avait énormément, il y avait même pratiquement que des Corses, ce qui m'a navré au plus haut point, parce que j'ai toujours eu une haute idée des Corses, donc ça m'a un peu affligée. Surtout, ce qui m'a frappé, c'est que cet homme avait commencé sa carrière comme proxénète. Et je me suis dit, c'est marrant, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu de femme proxénète qui, justement, prostituait des hommes. On n'a pas eu une maison close d'hommes tenue par des femmes. On n'a pas eu de femmes qui esclavagisaient les hommes pour les mettre sur le trottoir. C'est une chose qui semble tellement normale qu'on n'y a même pas pensé. C'est pas pour dire qu'il faudrait que ça arrive pour qu'on ait l'égalité. Non, ça me choque autant d'un côté que de l'autre. Comme il y a une chose, par exemple, qui me choque profondément, c'est par exemple, j'ai toujours lutté, et les gens m'ont toujours trouvé ridicule, contre les calendriers pornographiques féminins. Mais quand mes copines me sortent le calendrier pornographique masculin, soi-disant soft, érotique, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire rendre l'être humain comme un objet. Et un objet, ça veut dire qu'on peut l'utiliser, on ne respecte pas sa personne, on ne respecte pas l'âme, on ne respecte pas l'être et le citoyen ou la citoyenne. C'est quelque chose qui me choque profondément.
Est-ce que c'est compliqué d'être une femme aujourd'hui et d'évoluer dans ce milieu de la culture en Corse ? Ou peut-être moins que dans d'autres milieux ?
Non, c'est très compliqué. Pour la simple et bonne raison, c'est que souvent à des postes clés, voire à des postes de hiérarchie supérieure, on se retrouve face à des hommes. Et la première insulte qu'on reçoit quand on est passionné, c'est vous êtes une hystérique. L'hystérie, c'est quelque chose qu'il faut
ramener. L'hystérie de Charcot. Hein.
Voilà, exactement. C'est quand même
salpêtrière.
C'est ça.
Voilà,
c'est ça. On enferme les femmes. Exactement. Donc c'est quelque chose. Moi, je me permets pas de traiter un homme d'hystérique quand il s'emporte ou quand il emploie des mots désobligeants à mon égard.
Surtout que c'est un concept dépassé, l'hystérie de Charcot. Hein, prétendait les guérir oui. grâce à l'hypnose, un petit peu sur cette scène. Voilà, oui, c'est oui. juste de l'angoisse, de la somatisation en fait.
Oui, puis il y a eu surtout, je voudrais pas dire, mais l'hystérie, c'est pas, enfin, c'est un, on met dedans tout ce qu'on a envie d'y mettre. Les hommes, les maris se débarrassaient de leurs femmes de cette façon, se débarrassaient des filles qui voulaient pas se marier avec l'homme imposé aussi. On n'a jamais traité un homme d'hystérique, alors qu'ils avaient les mêmes maladies. On leur faisait des électrochocs, on a fait des lobotomies aussi à des personnes, des femmes soi-disant atteintes d'hystérie. Si vous voulez, tout ce passif, on le paye aujourd'hui. Aujourd'hui, on
a un peu ce patriarcat, voilà, que les femmes subissent.
Oui, mais il y a ce côté aussi. Moi, j'aimerais bien aussi temporiser le côté agressif aussi féminin, parce que ça nous profite pas d'être agressif, d'être. C'est bien de se faire respecter. C'est bien de dire ma place, elle est là. Mais c'est bien aussi de s'arrêter au respect de l'autre en face. Et si l'autre est un homme, c'est pas comme ça qu'on va gagner la partie. C'est pas en faisant exactement, en leur faisant subir ce que nous-mêmes on a subi depuis des siècles. Moi, j'ai toujours dit, j'ai des amis, par exemple, qui sont d'origine africaine, etc. Ce sont des militants. Ils disent oui, la cause africaine, la cause. On a été des esclaves, etc. Moi, je leur rappelle que le premier esclavagisme, il a été vis-à-vis des femmes, toute race, toute nationalité, tout confondu. Et je sais que le mot race, les gens détestent, et je déteste ce mot aussi, c'est pourtant un mot qu'on emploie, et notamment vis-à-vis des femmes, on les individualise bien en disant c'est un autre sexe, le sexe faible. Donc c'est encore pire, c'est comme un animal qui aurait 5 pattes au lieu d'en avoir 4 pour marcher normalement.
Quelles sont les femmes artistes qui peuvent vous inspirer ? Les écrivaines, les peintres ?
Bon, il y a les grands classiques, mais pour moi, un artiste. Alors, moi, j'ai un drôle de truc, c'est que pour moi, les artistes, avant d'être un sexe, c'est une âme. Moi, j'ai toujours dit, les artistes, ce sont des instruments de musique. Le souffle de la vie passe à travers eux, et comme ils sont des instruments de musique uniques, la musique qui en sort par ce souffle de vie reste unique. Homme ou femme, ça ne veut rien dire, parce que on a des artistes homosexuels, des artistes lesbiennes. Enfin, quand on regarde l'art, justement, c'est ça que j'aime dans l'art, c'est que c'est neutre. Pour la première fois, les hommes et les femmes.
Alors, quels sont les artistes tout genre.
Je dois avouer que je suis extrêmement ouverte. Des Klimt, bon, évidemment, tout le monde dira Frida Kahlo, mais parce qu'aujourd'hui elle est très à la mode. On a aussi des artistes. On a Berthe Morisot, par exemple, qui est un peu moins connue. Berthe Morisot, c'est une grande peintre impressionniste qui était la première à être respectée pour son art, voire même qui a inspiré d'autres artistes. Ça a suscité une émulation. On a Clara Schumann aussi, qu'on oublie souvent, qui est quand même la grande muse, qui est la grande amoureuse, mais la grande muse absolue, qui était une pianiste hors pair et qui a créé une histoire autour d'elle fabuleuse que voilà, j'invite à vous intéresser à sa biographie. Si vous voulez, tous les artistes, quels qu'ils soient, de la façon dont ils se manifestent, sont émouvants. Après, aujourd'hui, moi, je vois dans le monde du street art, par exemple, que j'ai beaucoup fréquenté et que je pratique parfois, au départ, j'ai noté beaucoup de machisme. Il y avait plus de mecs que de filles, et ça semblait normal. Sur une liste, on voyait que des hommes sur un festival. Et quand je disais d'une façon un peu cynique sur les commentaires, ça manque de femmes, tout de suite, je passais pour hystérique féministe de base. Aujourd'hui, ça s'équilibre un peu plus. Mais quand on voit les femmes street artistes, par exemple, eh ben, elles s'affirment dans un côté un peu genre rentre dedans. Pourquoi est-ce que les femmes ont besoin d'exister dans un domaine où les hommes sont dominants par justement une attitude dominante ? Pourquoi est-ce que les hommes ne peuvent pas accepter qu'une femme soit justement dans sa féminité, la respecter et l'apprécier pour telle et la respecter tout simplement ?
Bon, espérons que les choses changent en 2019.
Elle change en douceur.
Petit à petit, les choses restent optimistes.
Mais il faut encore être un marteau sur une enclume, et j'apprécierais d'être autre chose. J'apprécierais d'être, j'en sais rien, moi, je sais pas, un oiseau, un papillon, quelque chose de délicieux et de léger, et pas forcément juste un warrior ou une amazone, ou parce que des fois, d'avoir le couteau entre les dents, c'est fatigant.
En tout cas, merci de votre spontanéité, hein, de vos coups de gueule. En Corse, alors je sais que vous n'aimez pas faire des catégories, mais est-ce qu'en Corse, malgré tout, il y a des artistes que vous appréciez ?
Oui, il y a quelques artistes que j'apprécie. Il y a Yannick Stara, il y a Priscilla Marie Maizan, qui est une fille absolument fabuleuse.
Sculptrice,
qui fait des choses incroyables. Il y a Daïd, qui est quelqu'un de très secret, qui est un grand calligraphe et un grand graphiste aussi. Oui, il y a quelques artistes que j'apprécie beaucoup. Il y a Mako Deza, qui est un très très bon street artiste. Voilà, on a Mika dans un autre genre. Voilà, on a quelques personnes qui sont valables, qui sont dans leur domaine, leur spécialité, et qui sont vraiment valables.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la fin de l'émission. Alors, ça, un choix étonnant, hein, David Guetta. Expliquez-nous là. Alors, des explications s'imposent.
Je suis très éclectique, c'est-à-dire que j'aime beaucoup la musique classique. J'ai été élevée à la musique classique, ensuite élevée au pop rock, et en fait, j'ai dérivé en vieillissant justement sur la musique électro. Non, j'ai toujours aimé la musique électro, Tangerine Dreams et tout ça. Donc, en fait, là, ça aurait été compliqué de trouver Tangerine Dreams dans les tablettes. Donc, on tombe sur du David Guetta parce que des fois, il faut juste célébrer, être léger et superficiel.
Et on écoute ce duo, hein, Xia et ce titre Flames. Flames, ce sublime duo, j'en suis obligée de dire, vous avez choisi cette chanson de David Guetta et de Sia.
Je sens un peu de cynisme dans votre...
à peine. Alors, avant de nous quitter, nous allons parler d'avenir, hein. Votre avenir professionnel. Alors là, vous êtes passé responsable, hein, à la Bibliothèque patrimoniale d'Ajaccio.
Oui, oui, tout à fait, oui.
Donc en matière de conservation et de restauration.
Oui, tout à fait. Donc je m'occupe de gérer la conservation et la restauration et la mise en valeur de la bibliothèque patrimoniale, donc la salle et du fond.
Alors est-ce que vous pouvez nous dévoiler des choses à venir à la bibliothèque ou non, c'est top secret?
Non, il n'y a rien de top secret. À venir, on est donc inscrit au loto du patrimoine. Stéphane Bern nous a intégrés dans les 18 premiers lots. Donc là, ça va commencer sans doute au mois de juillet. Courez acheter les tickets pour soutenir la bibliothèque et pour la sauver. Soyez actifs, participants actifs du sauvetage de notre patrimoine.
Ben, voilà. Ça coûte un peu cher, hein, genre
15 euros le ticket. Voilà, je sais que ça coûte un peu cher, mais achetez-en au moins un, ce sera déjà ça. Après, il y a aussi tout ce qui est souscription. On a créé une souscription avec la Fondation du patrimoine et je tiens à remercier justement Thierry Rovert qui nous a beaucoup soutenus, tant pour le loto du patrimoine que pour justement cette souscription qui permet en fait de sauver le fonds. Parce que le loto du patrimoine, en fait, ne permet de sauver que la structure. Et on ne sait pas combien on va gagner. Ça dépendra évidemment de combien
quelle
de tickets.
Quelle est la priorité à la bibliothèque?
Les deux, malheureusement, hélas,
c'est
on
quoi,
a trop
c'est
attendu.
C'est l'extérieur?
Non, c'est la salle, l'intérieur, la structure même de la salle, l'intérieur et les collections, les
parce
ouvrages.
Quand on la voit comme ça, elle a l'air bien. Hein.
Oui, mais parce que c'est l'œil de la personne lambda, si vous faites
Merci.
Bien attention. Je suis désolée, si vous regardez bien, les couvertures ne sont pas très... elles sont un peu blanchies.
D'accord.
Donc ça, c'est le signe que les cuirs sont en souffrance au niveau atmosphérique. On n'a pas de gestion atmosphérique dans la salle. Tout est désuet, l'électricité, tout est vraiment dans un état pitoyable. Et puis on a ce que j'appelle, moi, les étagères sont en forme de drap. C'est-à-dire ça ondule. Et quand ça ondule, c'est pas très bon signe en général. Ça veut dire que toute la structure est en train de jouer. Donc il faut se dépêcher avant qu'elle ne s'effondre ou qu'elle parte en flammes comme Notre-Dame. Mais je suis un peu catastrophiste parce que si on est trop précautionneux, les gens ne se réveillent pas. C'est ça le drame. Et les gens me disent « mais vous criez au loup ». Oui, on crie au loup et puis un jour ça arrive et c'est dramatique. Donc avant que ça ne disparaisse, soyons au chevet de cette magnifique vieille dame qui appartient à tous les Corses.
Est-ce que les Ajacciens la fréquentent, cette bibliothèque patrimoniale?
Mais beaucoup, les Ajacciens, les jeunes, par exemple les jeunes étudiants, viennent régulièrement bachoter, les écrivains, les journalistes. C'est un lieu justement où qui est fait pour ça, qui est fait pour s'installer, réfléchir, etc. C'est aussi un lieu où moi j'ai très envie aussi de la mettre en valeur à travers des tournages, parce que du coup il y a moins d'impact, ça dure moins longtemps, il y a moins d'impact qu'avec des spectacles, qu'avec des conférences, voilà, les expositions. C'est pareil, c'est un peu moins d'impact. Les gens circulent, ressortent. C'est pas comme si on avait 60 personnes installées avec le gaz carbonique, etc. On n'a pas de gestion. Tant qu'on n'a pas de gestion, on peut pas accueillir une somme pendant un très long moment de personnes fixes. C'est ça que les gens n'arrivent pas à saisir et à comprendre. C'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est que pour le moment, on ne peut pas. Et on est vraiment dans une urgence de sauvetage.
Merci en tout cas Vanina.
Merci
d'être venue nous parler, voilà, de nous brosser un petit peu votre biographie, votre portrait en direct. Merci en tout cas de votre sincérité. Merci pour vos coups de gueule. Ça fait toujours plaisir d'entendre de la sincérité. Merci Vanina Chirinski-Chikmatov. Vous êtes responsable de la conservation et de la restauration à la bibliothèque patrimoniale d'Ajaccio. À bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.
Merci.
France Bleu RCFM.